BFM Business présente.
Maintenant, la vraie question, c'est de mesurer l'ampleur du retournement.
On est dans une situation économique qui est plutôt favorable. On n'ose pas le dire, parce que si jamais on dit ça, on passe pour
être à peu près d'accord sur rien avec ce que je viens d'entendre des uns et des autres.
Ça tombe bien. On veut du débat.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening business.
Un peu plus de 19h, pardon, sur BFM Business. C'est la deuxième heure de Good Evening Business avec Audrey Tcherkov. Rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Guillaume et rebonsoir à tous.
Nouvelle hausse de taux de la part de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui. Et Christine Lagarde qui le dit, il y en aura d'autres. Ça n'est pas fini, c'est cash, c'est clair. On va aller à Francfort, bien sûr, dans un instant.
Et puis vous savez, ces heures-ci, ce sont les grands de la tech américaine qui publient leurs résultats. Nous avons eu Meta hier. On aura Alphabet, Amazon et Apple en fin de soirée. Et c'est Frédéric Simotel qui viendra nous en parler.
On va voir ça dans un instant. Et puis un mot de nos invités jusqu'à 20h. Dans un quart d'heure à peine, c'est le patron de Trenitalia France qui viendra nous voir. Trenitalia, vous savez, c'est cet acteur qui commence à concurrencer sur une partie du réseau français, la SNCF, depuis plus d'un an. Et ces chiffres sont assez bons pour le coup. Hein.
Et 19h30, c'est Bernard Charles, le président du conseil de surveillance de Dassault Systèmes.
Voilà le programme non exhaustif. On est ensemble jusqu'à 20h, évidemment.
C'est parti.
Good evening business, le journal.
Donc Christine Lagarde et la Banque Centrale Européenne très inspirées aujourd'hui. La BCE relève donc ses taux une nouvelle fois de 50 points de base. Et Christine Lagarde le dit, ça n'est pas fini. Il y en aura d'autres dans les prochains mois. Aude Kersulek est à Francfort pour BFM Business.
On a besoin de faire notre travail, a dit Christine Lagarde cet après-midi dans un discours plutôt modéré pour justifier de la décision de hausse de taux de 50 points de base et de son objectif de stabilité des prix à 2%. Alors cette hausse du jour, elle a bien été de 50 points de base et on a aussi appris que pour le mois de mars, eh bien, la BCE avait la forte intention de relever encore ses taux de 50 points. La BCE qui de nouveau essaie de guider les investisseurs sur ses futures actions. Mais pour la réunion de mai, en revanche, Christine Lagarde a bien éludé la question. Rien n'est défini et tout dépendra de l'inflation. Et pour le moment, on ne parle pas de début de désinflation ici à Francfort ou de fléchissement d'inflation. On reste très prudent. Il a beaucoup été question de cette inflation sous-jacente qui reste très élevée, très stable d'ailleurs depuis le mois de novembre au-dessus de 5%. C'est un niveau record et ça montre une inflation ancrée qui s'est généralisée avec une forte pression sur les prix malgré l'accalmie du moment sur les prix de l'énergie.
Voilà la Banque Centrale Européenne qui relève ses taux. Une fois de plus, elle est tenace, la BCE, elle ne lâche rien, elle veut vraiment terrasser l'inflation hausse après hausse, hein, André. Hein,
alors en effet, elle ne lâche rien, sachant que les indicateurs récents apaisent pourtant les craintes pour l'économie européenne. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est que la BCE s'inspire de la Banque du Canada qui a été, vous sonnez, une des premières à monter ses taux justement pour contrer l'inflation et qui vient de choisir de marquer un arrêt pour mesurer justement l'impact de ces dernières décisions dans l'économie réelle.
En stand-by, sauf que ça n'est pas question du côté de la Banque Centrale Européenne, bien évidemment. Dans l'actualité, voilà qui n'a pas contribué à faire repartir l'activité en France. Les Français ont un moral économique en berne. C'est ce qui ressort du dernier baromètre Odoxa pour BFM Business. Leur moral n'a pas été aussi bas depuis février 2021 en plein Covid, sauf que cette fois... apparemment, c'est la réforme des retraites qui enfonce le clou. On voit tout ça avec Étienne Henry.
Une grande majorité de Français se dit pessimiste, un moral en berne bien inférieur à celui de nos voisins européens. Et pour le président et cofondateur d'Odoxa, Gaël Sliman, la raison de cette déprime française est toute trouvée.
Elle tient en trois mots, réforme des retraites. C'est quelque chose qui inquiète les Français. Ils sont persuadés que cette réforme des retraites, elle aura un impact économique négatif sur le pays.
Plus de la moitié des Français pensent que cette réforme aura un impact économique négatif, car elle va finalement nuire à la croissance en provoquant des grèves et des manifestations, alors que seulement 19% pensent qu'elle aura un impact positif. Le contenu du texte est aussi loin de faire l'unanimité. Trois quarts des Français pensent qu'elle ne permettra pas de réduire le déficit public et qu'elle ne sera ni efficace ni pérenne.
Moral économique en berne, c'est pas annonciateur de très bons lendemains en matière de consommation, notamment Audrey, hein, c'est sûr.
Non, en effet, mais ça s'explique aussi par le fait que sur les perspectives de niveau de vie en France, on est presque à un plus bas historique depuis 1970. Maintenant, quand même, pour terminer sur une note positive, je vous rappelle que le moral des patrons français en janvier était en hausse.
Et ça, c'est bon par contre pour l'investissement, évidemment, pour l'année à venir, évidemment. Voilà pour ces chiffres d'Oxa qui sont tombés ce matin. En France, toujours, c'était attendu, malheureusement, Go Sport France a été placé en redressement judiciaire aujourd'hui, 2 semaines après sa maison mère, et à la demande de ses dirigeants, Gosport France, qui emploie aux alentours de 2160 personnes aujourd'hui. Et puis dans le prêt-à-porter, ça continue. On l'a appris aujourd'hui, c'est la marque Pimki qui pourrait bientôt supprimer jusqu'à 500 postes dans le cadre de sa cession. Ça intervient après des mauvaises nouvelles du côté de Camailleux, du côté de Koukaï hier. Bref, toujours le problème de ces marques de prêt-à-porter des années 90 qui n'arrivent pas à faire surface. Pauline Tadevin.
Les difficultés de ces marques ne datent pas de la crise Covid, mais elle les a accentuées. Koukaï pointe du doigt le manque de soutien des banques quand il a fallu fermer boutique. Elle regrette notamment de s'être vue refuser les prêts garantis par l'État. Autre problème de taille, les clients ne sont pas revenus en magasin, en tout cas pas comme avant. Moins 15% d'affluence par rapport à 2019, d'après Procos, la fédération du commerce spécialisé. Cela pénalise d'autant plus les enseignes qui n'ont pas assez investi dans le e-commerce, mais globalement aussi, les Français achètent moins de vêtements avec des ventes en baisse de 10% par rapport à 2019 d'après l'Institut français de la mode. L'inflation joue forcément. De plus en plus, les consommateurs arbitrent entre un habit ou autre chose. Et puis quand ils achètent, c'est de plus en plus de la seconde main. Et dans ce panorama, le milieu de gamme souffre particulièrement dans un marché qui se divise de plus en plus entre l'ultra fast fashion, notamment sur Internet, et des marques plus haut de gamme.
Pauline Tadevin avec nous sur BFM Business. Année 2022 exceptionnelle en revanche pour Ferrari, décidément insubmersible. Ses ventes ont progressé de 18% sur un an, un peu plus de 13 000 véhicules vendus dans le monde. Et la marque est encore plus optimiste pour les prochaines années. La preuve, elle prévoit de lancer 15 nouveaux modèles d'ici les 3 prochaines années. Et puis on va parler des GAFA, parce que vous savez qu'on vit des heures cruciales. On a eu hier soir les résultats de Meta qui est en train de flamber, on verra ça dans un instant. On aura dans les prochaines heures ceux d'Amazon, d'Apple et d'Alphabet. On voit tout ça avec Frédéric Simotel.
On s'attendait plutôt à des résultats en baisse de entre 7 et 9%. Ouais. Eh bien non, les résultats, c'est moins 1%. Donc, enfin, sur le chiffre d'affaires. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Surtout que derrière, là où les trimestres précédents, on avait vu le nombre d'utilisateurs de Facebook descendre, eh bien là, ils sont plutôt en train d'augmenter. Meta, alors sur l'ensemble de ces marques, hein, Facebook, Instagram, WhatsApp, a dépassé les 2 milliards d'utilisateurs actifs. Sur un mois, ce sont 3,75 milliards de personnes qui vont sur l'une des trois plateformes de Meta. Ça veut dire quand même un terrien sur deux se rend sur ces plateformes. Alors ça n'empêche pas quand même Mark Zuckerberg d'être assez pessimiste, enfin de voir le verre à moitié plein. C'est que oui, pour monétiser tout ça, bien ça reste encore un peu compliqué. Ouais. D'autant que Meta, vous le souvenez, a investi beaucoup aussi sur le métaverse, hein, sa structure, sa plateforme de Web3, et que là, ça, il tarde encore à convaincre. Il vient encore d'investir plus de, enfin, c'est encore en perte de 4 milliards de dollars. C'est encore des dizaines de milliards qui vont être investis. Et puis on le rappelle, hein, Meta, c'est près de 10 000 licenciements annoncés au début de l'hiver.
Voilà pour Meta, Frédéric Simotel, et puis donc encore beaucoup de résultats attendus ce soir. On verra ça avec Sabrina dans un instant. Meta en tout cas qui gagne 26% en ce moment du côté de Wall Street. On va aller sur les marchés dans un instant. On voulait juste vous dire un petit mot de Raphaël Varane, qui a donc annoncé aujourd'hui sa retraite internationale de l'équipe de France à 29 ans. Il quitte l'équipe de France, mais il va désormais se consacrer, outre sa carrière en club, au monde de l'entreprise. Il rejoint la liste désormais imposante des joueurs qui vont financer des start-up. Sofiane Aklouf.
Le vice-capitaine de l'équipe de France de foot investit dans Kobi, une jeune entreprise qui veut pousser les salariés à se mettre au sport. Elle vient de lever 3 millions d'euros. Le rôle de l'ancien international ? En faire la promotion et siéger au conseil d'administration. En parallèle, il monte au capital d'une autre start-up, Kivent, qui permet aux kinés et aux préparateurs physiques de suivre plus facilement leurs patients. Le jeune retraité suit les traces de son ancien coéquipier, Blaise Matuidi, créateur d'un fonds d'investissement dans lequel certains bleus ont pris des parts. D'autres se sont éloignés du monde du sport. Le footballeur Mathieu Flamini mise depuis des années sur la biotech. Il est désormais PDG d'une entreprise de chimie verte. Figure sportive et médiatique, Taïk Chris avait ouvert la voie à la reconversion des sportifs dans le monde des entrepreneurs. En 2014, il raccroche les rollers pour lancer OnOff, une start-up spécialisée dans les télécoms. Résultat, il a récolté 10 millions d'euros en 4 ans. Autre reconversion réussie, celle de Tony Parker. Le champion de NBA détient en partie Smart Good Things, une entreprise de boissons en poudre. Une opération qui a intéressé jusqu'au groupe Casino, qui a décidé de prendre 10% du capital de la société.
Voilà, ces sportifs qui se réintroduisent dans le business. Sofiane Clouf avec nous sur BFM Business. 19h12, on retourne sur les marchés. Nous, je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris. Clôture en forte hausse ce soir pour le CAC 40, puisqu'on a récupéré 1,26%, 7166 points pour le CAC 40 ce soir à la clôture. Bonsoir Sabrina, ça va pas mal chez vous aussi, grâce à la tech en l'occurrence, Sabrina.
Et oui, très très belle séance pour le compartiment tech grâce à Meta qui a publié ses résultats trimestriels hier soir après la clôture. Certes, un troisième trimestre d'affilée de baisse des revenus, forte baisse des résultats, mais des baisses moins marquées que prévues. Le nombre d'utilisateurs passe la barre des 2 milliards et puis aussi surtout les prévisions, puisque Mark Zuckerberg, le patron de Meta, promet de ne plus investir massivement dans des projets qui ne sont pas rentables ou qui ne sont pas importants. Le groupe qui parallèlement annonce un programme de rachat d'actions de 40 milliards de dollars, tout cela plaît clairement au marché, avec un titre qui s'envole de pratiquement 26% actuellement. On est à 192,89 $. Ça entraîne dans son siège les autres valeurs du secteur. En attendant la publication ce soir après la clôture d'Apple, le titre est en hausse de plus de 3%. Vous avez Amazon qui s'envole de 7% avant la publication de ses résultats trimestriels ce soir, et Alphabet Google qui prend 6% avant le grand rendez-vous de ce soir après la clôture, avec donc une tendance positive, en tout cas du côté du Nasdaq qui affiche une hausse de 3,2% actuellement, 12 190 points. Le S&P 500 plus haut depuis le mois de août dernier, grimpe d'1,5%. Le Dow Jones en revanche est à la traîne, on recule de 0,3%, pénalisé par les fortes baisses de United Health dans l'assurance ou encore dans la pharma de Merck, qui a publié des résultats certes supérieurs aux attentes sur le trimestre écoulé, mais avec des prévisions jugées décevantes. Voilà donc pour cette séance américaine, le Nasdaq à la fête grâce à Meta.
Merci beaucoup Sabrina, on vous suit évidemment, on vous retrouvera à la fin de cette séance tout à l'heure à Wall Street en direct évidemment sur BFM Business. 19h14, c'est l'acteur qui vient chatouiller la SNCF depuis plus d'un an, Trenitalia. Bah, le patron France de Trenitalia, Roberto Rinaudo, est avec nous dans un instant sur BFM Business. À tout de suite.
Good evening business, ils font l'écho.
19h17, nous allons parler secteur ferroviaire avec notre deuxième invité. Bonsoir Roberto Rinaudo.
Bonsoir, monsieur.
Alors vous êtes PDG de Trenitalia en France, Trenitalia qui vient de fêter il y a quelques semaines son premier anniversaire justement sur le marché français. Donc aujourd'hui, c'est 5 allers-retours, Paris-Milan, Paris-Lyon. J'ai envie de vous parler des vacances de février qui arrivent et des grèves que l'on soupçonne. Est-ce qu'on a plus de chances de pouvoir faire Paris-Lyon chez vous plus facilement qu'à la SNCF?
Oui, pour les skier, forcément.
On va voir. Normalement, quand il y a des grèves, le scénario est toujours pas sûr. Il faut voir un peu quels sont les trains qui sont confirmés ou qui sont supprimés. Normalement, notre personnel ne fait pas la grève.
Ben oui.
Mais cela dit, ce n'est pas certain que certains trains puissent être annulés à cause de la grève de la part des orgueilleurs de SNCF Réseau.
Mais oui, ça, vous êtes dépendant de ça, évidemment.
Exactement. Oui, par exemple, pour la grève du 19 janvier, on a dû supprimer 6 trains sur 10. Et pour la grève du 31 janvier, on a supprimé 4 trains sur 10.
Ouais. Mais c'est une question intéressante, parce qu'instinctivement, on pourrait se dire, je vais aller chez Trenitalia, vu que ça n'est pas la SNCF, donc j'ai moins de chances. Donc ça n'est pas ressenti sur les réservations, déjà, pour les prochaines semaines. Ce n'est pas quelque chose que vous observez particulièrement, vous, de toute façon.
Oui, mais cela dit, nous ne basons pas notre business sur les grèves, évidemment.
Non, bien sûr, pour le coup.
On espère qu'il n'y aura pas de grève et qu'il n'y aura pas d'impact, surtout sur le réseau ferroviaire.
La concurrence, elle commence à émerger, alors avec vous, mais pas que. Il y a aussi la Renfe espagnole qui va lancer des offres d'ici l'été. Il y a aussi le train qu'on a reçu avec Guillaume il y a quelques jours, qui commence des expérimentations, notamment sur l'ouest du pays. Justement, comment est-ce que vous adaptez, vous, à cette concurrence qui va crescendo? Est-ce que vous la voyez d'un bon œil?
Alors, Tout d'abord, il faut dire que nous avons vécu déjà cette expérience d'ouverture de la concurrence en Italie. Je rappelle qu'en 2012, il y a eu l'arrivée d'un nouvel opérateur qui s'appelle NTV.
Ouais.
Et suite à cela, il y a eu une croissance incroyable du marché ferroviaire qui a donné des bénéfices énormes à tout le secteur ferroviaire. Je rappelle en fait qu'après 4 ans, il y a eu une offre qui a doublé.
Oui.
On a doublé le nombre de voyageurs pour tous les opérateurs. Il y a eu une baisse aussi du pricing entre 30 et 40%.
40%?
Oui. Il y a eu une augmentation de la qualité du service parce que, évidemment, les clients ont plus de choix. Et donner plus de choix aux clients signifie stimuler la demande. Et grâce à cela, on a eu des bénéfices énormes pour les voyageurs, évidemment, pour les opérateurs ferroviaires qui ont augmenté, amélioré leur performance, mais aussi le gestionnaire de l'infrastructure qui a eu la possibilité aussi d'améliorer ses performances et réduire la dette sur les investissements de la GV.
Mais jusqu'à quel point il peut y avoir une concurrence, en l'occurrence là sur le marché français, parce que comme on dit, le ticket d'entrée sur le marché français, il est quand même assez élevé. Il faut des infrastructures, il faut beaucoup de capitaux. Est-ce que ça vous laisse penser que tant d'acteurs que ça émergeront sur le marché français dans les prochaines années finalement?
C'est un peu difficile à le
dire. Tout le monde peut pas y aller, c'est ça que je veux dire, monsieur Renaud.
Oui, certainement, le secteur ferroviaire est un secteur compliqué qui a besoin de beaucoup d'investissements.
Oui.
Je rappelle que évidemment, il faut investir beaucoup sur la flotte, sur l'homologation de la flotte, parce que je rappelle qu'en Europe, les caractéristiques techniques des infrastructures sont différentes. Donc, il faut adapter sa propre flotte aux caractéristiques techniques dans notre pays, comme nous avons fait dans le cadre du réseau français. Il y a des contraintes techniques parce que chaque pays adopte des règles de sécurité qui sont différentes pour lesquelles il faut s'adapter.
Et pardon, c'est plus complexe en France ou pas qu'ailleurs finalement, ou pas plus?
C'est compliqué partout.
Non, mais est-ce que c'est plus compliqué en France?
C'est difficile de comparer en fait, parce que chaque pays a ses caractéristiques, ses peculiarités. Donc certainement en France c'est pas du tout facile, ça c'est sûr.
Évidemment. Oui.
Mais donc ce que vous nous dites, c'est que finalement la concurrence, ça a du bon, tant sur le prix aussi peut-être que sur la ponctualité, parce que finalement c'est un espèce de nivellement vers le haut. Le prix, est-ce que vous en faites un argument phare?
Non, je pense que nous avons basé plutôt notre présence en France sur un rôle de complémentarité par rapport à la SNCF. Donc notre ambition, en fait, c'est de contribuer à améliorer, à donner plus de choix à nos voyageurs, à contribuer à donner de la croissance au marché ferroviaire qui a évidemment des impacts positifs.
Oui, mais quand même, le prix moyen sur un Paris-Lyon a baissé en moyenne depuis l'ouverture à la concurrence.
Nous avons adapté une politique de pricing qui est basée sur un très haut niveau qualité-prix, sur la lisibilité, sur la transparence et sur la flexibilité.
Oui.
En fait, notre prix est basé, nous avons un seul prix, un seul tarif qui s'évolue en fonction de l'emplissage des trains.
Ouais, c'est ça. Mais en quoi, vous dites complémentarité avec la SNCF, en quoi est-ce que vous êtes complémentaire de la SNCF et pas concurrent de la SNCF? C'est ça que j'arrive pas à comprendre.
Avant tout, c'est pas notre objectif de faire de la grille de prix avec la SNCF, parce qu'il n'y a pas de sens. Il faut donner une offre.
C'est vrai que c'est le procès qu'on fait à la SNCF, des prix trop élevés. Hein. Donc, on se disait.
Il y a un sujet sur la ponctualité.
Oui, et sur la ponctualité, on se disait, ils vont les attaquer sur les vulnérabilités que sont les prix et la ponctualité.
Il faut simplement donner une offre qui soit différente.
C'est-à-dire,
nous avons proposé une flotte technologiquement avancée, récente, qui est nouvelle en France, en fait. C'est la première fois qu'on donne une offre commerciale avec cette typologie de flotte, avec 16 moteurs distribués sur la rame pour réduire un peu la sonorité et tous les impacts concernant le confort, etc. On a un système de maintenance prédictive. Et donc il y a des paramètres qui sont sous contrôle et qui permet en fait de contrôler bien la performance de la flotte. Est composé presque de 100% de matériaux recyclables. On a une offre qui est très riche parce que qui satisfait tous les besoins de nos voyageurs. On a différentes classes de services. On a l'exécutive, la business, la standard. Donc l'exécutive où il y a une seule voiture avec 10 places, avec des fauteuils très larges en cuir, réclinable, pivotable, avec une offre de restauration illimitée pour nos voyageurs. Nous disposons également d'une salle de meeting pour permettre aux voyageurs
d'organiser
des réunions et de projeter aussi des présentations avec des écrans qui sont disponibles. Il y a une business qui correspond à la première classe où il y a une collation qui est offerte par nous à nos voyageurs. La standard qui permet de voyager à petit prix à la grande vitesse. Et surtout, il y a un service de Wi-Fi disponible pour tous les voyageurs.
Donc vous visez clairement une clientèle business.
Mais pas seulement.
Non, mais vous visez pas forcément le même public que la SNCF. C'est en ça que vous êtes complémentaires, d'accord. Voilà.
Oui, c'est cela. Des ambiances différentes, silence et allegro pour des ambiances plus conviviaux. Ou alors du silence, du calme pour qui doit travailler ou se reposer tranquillement.
Mais si on en revient au sujet des prix, comment est-ce que vous gérez l'envolée des prix de l'énergie chez vous? Et est-ce qu'on peut craindre que ça ait, si ça n'a pas été le cas déjà, une incidence sur le prix final du billet?
Alors, effectivement, la crise énergétique, c'est un point un peu délicat qui concerne un peu tous les secteurs ferroviaires. Je rappelle que
ça vous coûte très cher.
D'un coût par mégawattheure de 56 euros au début 2023 avec un prix de 473 euros par mégawattheure.
Oui, colossal.
Une augmentation de plus de 400%. Donc je sais qu'il y a des débats en cours aussi à un niveau institutionnel. Rien n'a été encore décidé. Je souhaite, on espère qu'il y a des aides qui permettent en fait de soulager un peu tous les secteurs ferroviaires qui est impacté par cette crise énergétique.
Mais alors, est-ce que le prix du billet a été impacté?
Non, pas du tout. Nous avons décidé de garder les mêmes prix parce que notre objectif, effectivement, c'est de remplir nos trains, de contribuer à améliorer le système de mobilité, à garantir une croissance du marché ferroviaire qui pour nous est primordial. Donc nous avons fait le choix de garder exactement les mêmes.
Ça fait donc un peu plus d'un an maintenant, c'était le 14 décembre 2021 que vous êtes présent sur le marché français avec cette ligne Paris-Lyon notamment. Est-ce qu'il y a d'autres projets, d'autres lignes, d'autres projets dans les cartons sur le marché français? Où est-ce que vous allez désormais?
Bon, alors, première chose, nous voulons consolider les résultats que nous avons réalisés jusqu'à présent. Donc, notre but, c'est de consolider notre présence sur la ligne Paris-Lyon-Milan.
Paris-Lyon-Milan, voilà.
En parallèle, nous avons commencé déjà à faire des études pour voir s'il y a d'autres opportunités en France ou sur des lignes internationales, éventuellement.
Il y a un projet Paris-Madrid dans les cartons, j'ai vu ça ou...
Il y a dans la liste aussi cette ligne. C'est objet d'études de notre part. À l'issue de ces études, on va bien évaluer si ces lignes représenteront une opportunité pour nous de développement. Et dans ce cas, on va communiquer ce qu'on va réaliser.
Bon, on a l'impression quand même que cette concurrence en France, elle met encore un petit peu de temps à émerger et que le temps que tout le monde se mette en ordre de bataille... Avant 2024-2025.
Elle arrive doucement.
Il faut encore un petit peu de temps quand même pour qu'elle soit vraiment vive, cette concurrence. C'est ce que vous dites aussi, monsieur Renaudot.
Encore une fois, je ne la vois pas comme une concurrence, mais simplement comme
un
opérateur qui est complémentaire.
Peut-être dans un deuxième temps.
Et qui contribue à la croissance du marché ferroviaire.
Et on note que votre cravate rouge n'est pas sans rapport avec le rouge de vos trains.
Évidemment, qui sont désormais familiers du grand public. Merci beaucoup, Roberto Renaudot. Merci d'être venu, le PDG de Trenitalia en France, avec nous ce soir sur BFM Business, un peu plus d'un an. Vous annonciez 1 million de passagers, c'est ça, en décembre dernier.
Oui, voilà. Nous avons dépassé 1 million de passagers.
Et ben voilà, on vous souhaite.
Avec un taux de remplissage qui a dépassé 73% en moyen, et sur le Paris-Milan, le 80% de remplissage.
Bon. Et vous dites 1 million, donc alors on se donne rendez-vous dans un an, on sera à 2 millions, 3 millions, c'est quoi l'objectif là?
On espère.
On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Roberto Renaudot, PDG de Trenitalia France, avec nous ce soir sur BFM Business. Merci d'être passé nous voir.
Merci.
19h28, c'est déjà fini pour ce soir.
Et c'est passé très vite comme toujours, Guillaume. Si vous avez raté ou si vous souhaitez revoir l'ensemble de nos échanges, c'est à retrouver sur le QR code qui s'affiche sur vos écrans ou sur l'ensemble de nos plateformes, et notamment sur bfmbusiness.fr.
Je vous rappelle la très belle clôture ce soir à la Bourse de Paris après les annonces de la Banque Centrale Européenne qui nous annonce donc une nouvelle hausse de taux d'intérêt de 50 points de base. Et Christine Lagarde, on va en reparler bien sûr tout au long de la soirée sur BFM Business, qui le dit, d'autres hausses viendront dans les prochains mois. Nous ne lâchons pas le combat contre l'inflation, bien évidemment, plus 1,26% ce soir, 7166 points pour l'indice parisien. Voilà, 19h28, une petite pause. Le rappel des titres avec Faiza Younzi dans un instant, et puis dans la foulée, c'est donc Bernard Charles, le président du conseil d'administration de Dassault Systèmes, qui est l'invité d'Élie Chevrillon pour la grande interview. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve demain, 18h, même endroit, pour de nouvelles aventures. Très bonne soirée.
Bonne soirée.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en espérant que ma voix va tenir tout au long de ces grandes interviews. Mon invité, c'est Bernard Charles, le PDG de Dassault Systèmes. Bernard Charles, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez couru, vous avez beau être le spécialiste des logiciels 3D, vous n'avez pas pu vous transporter ici dans le studio de BFM. Vous téléporter. En tous les cas, merci d'être avec nous. Mais il faut dire qu'il ne fallait pas manquer ça. Vous avez publié des résultats pour 2022 excellents.
Absolument.
Vous avez, et puis surtout, c'est un moment important pour Dassault Systèmes. D'abord, c'est la première fois que je vous présente en tant que président, directeur général et président du conseil d'administration, Bernard Charles. Nouvelle gouvernance depuis le 9 janvier dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous.
Oh, c'était déjà bien prévu de longue date, puisque j'étais déjà vice-président du Conseil depuis 2016. Donc, c'est l'évolution logique, compte tenu de nos statuts. Charles Lesten devient président d'honneur. On a travaillé ensemble pendant 40 ans, fait cette magnifique entreprise, depuis une start-up jusqu'à un leader mondial aujourd'hui. Et désormais, c'est avec Pascal Dalloz que je vais poursuivre le chemin. Je crois qu'on a démontré que l'excellence en duo pouvait fonctionner pour une belle histoire technologique.
Est-ce qu'il faut s'attendre à avoir d'autres... Parce que dans le groupe Dassault, il y a des successions, parce qu'il s'est passé malheureusement des choses comme dans des successions assez tristes, mais aussi il y a des questions d'âge, de génération. Charles Edelstein, il est un peu trop vieux pour rester à la tête de Dassault Systèmes. Est-ce qu'il devient un peu trop vieux pour rester à la tête de l'Empire Dassault?
Comme vous voyez, tout est bien géré.
Oui.
Par avance, et c'était déjà prévu depuis plusieurs années, donc il n'y a aucune surprise.
Aucune surprise. Alors, l'autre point très important sur le plan business, hein, cette fois-ci, c'est la première fois que pour Dassault Systèmes, le secteur de la santé devient le premier business de Dassault Systèmes. On va rappeler rapidement, pour ceux qui s'en souviennent, au départ, c'est les avions, les voitures, puis le textile, puis les métropoles, etc. Et puis, depuis 2019, avec le rachat de Medidata, 5,8 milliards, hein, quand même, vous étiez venu ici nous expliquer. Vous êtes rentré dans le secteur de la santé.
Alors, tout ceci réside dans une idée majeure, faire les jumeaux numériques de tout ce que l'humanité produit comme objet physique et désormais faire le jumeau numérique du corps humain, incluant les cellules, le cerveau, le cœur, les organes. Et on voit que ça peut marcher. Et cette notion de jumeau numérique que l'on simule grâce à de la science fait qu'aujourd'hui, cette généralisation pour les produits, les usines, les villes, les infrastructures, les constructions et la santé, je pense que c'est une transformation majeure de l'ensemble des futures industries du 21e siècle. On est acteur, tant mieux, et on a l'intention d'en tirer un grand parti.
Les profits.
12 industries que nous servons aujourd'hui, aéronautique, défense, automobile, comme vous l'avez mentionné, mais aussi high-tech, et très grande dynamique. Et là, de ces 12 industries, celle de la santé est aujourd'hui la première.
Oui, on va y revenir plus en détail. Juste un mot, enfin, un peu plus qu'un mot quand même sur vos résultats. Plus 1% de croissance du bénéfice net, 8% du chiffre d'affaires. 2022 est une très bonne année.
Et 2022 est une bonne année. Elle a démarré difficilement, souvenez-vous. Oui. On sortait du Covid. Ensuite, il y a la guerre sur le continent européen, terrible, crise énergétique. Et on a réussi, malgré tout, du fait de notre présence mondiale, des marques et de leur efficacité, à tirer notre épingle du jeu et à dépasser les objectifs qui étaient prévus initialement il y a un an quand nous trouvions ici.
Est-ce que tous les secteurs sont en ordre de marche, enfin ont une croissance aussi forte que le secteur de la santé?
Écoutez, c'est assez le secteur de la mobilité, particulièrement automobile, a une très forte dynamique. Il y a une revue du portefeuille qui est considérable, hein, avec l'électromobilité, des nouvelles usines, etc. Le high-tech, la défense et l'aéronautique et l'espace aussi sont en très forte dynamique. Donc 4 grands secteurs qui emmènent le reste.
Et je pense que du point de vue géographique, on a vu une dynamique forte aux États-Unis, soutenue en Europe et en Asie, malgré le ralentissement en Chine, une croissance au dernier trimestre de 27% en Inde, 17% en Corée et 12% au Japon. Donc, récompensation. Et en Chine, comme vous le savez, il y a eu un ralentissement dû au Covid, dû au fait de ne pas pouvoir rencontrer des clients.
Mais justement, c'est intéressant de comparer notamment avec l'Inde, bien sûr.
Bien sûr. Mais je pense que ça va de se dégeler cette année.
Oui, c'est ce que vous prévoyez pour 2023. On l'a vu du reste à Davos, au Forum économique, on voit le retour des Chinois, retour progressif. Mais donc pour vous, la Chine, ça va revenir un partenaire important quand ? En 2023 ?
Tout le monde s'accorde à dire qu'en 2023, il y a déjà une progression qui va se faire avec la libération, même si les problèmes de Covid ne sont pas résolus pour eux. Et probablement, il s'agit de savoir si l'accélération se fera première partie de l'année ou deuxième partie de l'année. Nous, on table sur plutôt une seconde partie de l'année.
Oui, seconde partie, d'accord, c'est important. Le 2022, très bonne année. 2023, une année qui sera encore meilleure que 2022 ou pas? Parce que vous vous êtes dit confiant. Mais maintenant, ça dépend où est-ce que vous mettez votre niveau de confiance, Bernard Charles.
On prend toujours des précautions. Dassault Systèmes, en général, a l'habitude de tenir ses objectifs ou de les dépasser. C'est à peu près, je signale, sur près de 25 ans, notre réputation. Donc, on est prudent en début d'année, quitte à améliorer les prévisions en cours d'année quand les situations aussi volatiles que celles que l'on connaît se passent. Mais on a aujourd'hui des bras de levier de croissance qui sont solides. On vient de nommer ces secteurs et cette dynamique de transformation de l'économie mondiale vers une économie qui est dirigée par deux vecteurs. Le fait que c'est une économie d'usage. Vous avez vu que désormais, les fabricants d'automobiles font de l'assurance, veulent faire de la fourniture énergétique, veulent faire des services. On voit bien que c'est une économie de l'usage qui s'applique à toutes les industries. Et sur la santé, une révolution grâce à la virtualisation et à l'amélioration dans la recherche des nouvelles thérapeutiques. Oncologie, vasculaire ou aussi cérébrale.
Oui, mais excusez-moi d'être un petit peu terre à terre. Plus 17% en 2022 chiffre d'affaires, d'accord ? En 2023, c'est plus combien ?
On a annoncé environ 7 à 9% de croissance du chiffre d'affaires.
D'accord, légèrement en dessous des 6 milliards.
Donc, légèrement, peut-être qu'on les atteindra.
Ah, ça je ne sais pas.
On n'est pas très loin dans les prévisions, vous avez vu que c'est à 25 millions près. On verra ce qui se passe dans l'année.
Oui, et en termes de bénéfices ?
En termes de bénéfices, il y aura une légère érosion du bénéfice. Très légère, on a une marge opérationnelle quand même élevée, autour de 34%.
C'est peut-être le petit bémol pour les marchés.
C'est le petit bémol, mais c'est un bémol volontaire, puisque nous avons, contrairement à la tech du monde entier, continué d'embaucher sur la seconde partie de 2022, une croissance de plus de 10% des effectifs pour nous préparer à tirer avantage de la croissance future. Donc Dassault Systèmes est une société long terme, donc on investit à contre-cycle. Là, on vient de prouver. Et nous n'avons jamais fait de plan de réduction d'effectifs.
Oui. La pénurie de talent, vous n'êtes pas touché ? C'est bon.
La preuve, c'est que nous avons embauché les ressources dont nous avions besoin dernière partie de l'année, plus de 2000 personnes, des scientifiques. Ce sont des compétences extrêmement pointues, puisque je vous rappelle que d'abord, Dassault Systèmes est d'abord scientifique et que le logiciel est pour nous plus un moyen qu'une fin.
La santé est très très intéressante. C'est très intéressant cette histoire de cœur humain. Vous voulez pas faire ça pour les cordes vocales, non? Vous ne voulez pas nous projeter pour essayer d'arranger les cordes vocales?
On réussira
plus sérieusement, c'est pour quand notre
c'est déjà en cours.
Oui, mais
c'est déjà en cours
pour nous.
Certains organes.
C'est déjà en cours.
Mais c'est déjà en cours sur la peau. C'est déjà en cours sur les cellules humaines. On est capable d'aujourd'hui de simuler la propagation du cancer dans une cellule humaine. C'est déjà en cours pour le cœur. Et c'est des grands établissements très avancés dans des pratiques médicales extrêmement sophistiquées qui sont les premiers à adopter ça, comme on l'a vu sur l'aéronautique et l'automobile il y a 40 ans, puisqu'on a démarré cette transformation gigantesque dans les secteurs de l'industrie il y a 40 ans. Ça a pris du temps, mais aujourd'hui, c'est devenu un indispensable. Il n'y a plus un seul avion au monde qui soit fait sans les logiciels de Dassault Systèmes. C'est 80% des voitures du monde. Et aujourd'hui, 70% des essais cliniques des nouvelles thérapeutiques du monde sont faits avec les logiciels Dassault Systèmes. Donc, ce n'est pas demain. On est dans cette transformation en cours et on est un acteur unique au monde pour faire que ça puisse se réaliser.
Et qu'est-ce qui vous manque pour, avoir 10 milliards de chiffre d'affaires ?
Le chiffre d'affaires, est, vous savez, on fait une évolution de nos logiciels qui est une évolution vers le cloud. Donc, on va vers un modèle de souscription, abonnement, en d'autres termes. Donc, en réalité, c'est avec l'usage que se fait l'évolution du chiffre d'affaires. On n'a jamais réellement visé des croissances de 10 milliards pour nous n'est qu'un résultat d'autre chose, de la valeur qu'on apporte à nos clients. Et aujourd'hui, je considère qu'on apporte une valeur unique. Le point d'entrée est devenu bien plus élevé et c'est pour ça qu'on est numéro un mondial et que la valorisation de l'entreprise, elle s'en retrouve là, visible aujourd'hui. On dépasse les 50 milliards de capitalisation. Je pense qu'un jour, on dépassera les 100 milliards. On dépassera un jour les 100 milliards. Je ne sais pas quand, mais ça sera le résultat d'un bon travail d'innovation pour transformer le monde et notre raison d'être harmoniser le produit nature et vie.
Justement, Bernard Charles, d'où ma question. Ce n'était pas pour essayer de rêver. C'est qu'effectivement, on se dit maintenant que vous êtes numéro un partout. On a envie de se dire où sont les limites de ce système. Parce que si quasiment 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est beaucoup. Mais en même temps, vu votre empreinte aujourd'hui dans l'industrie, dans la santé, dans la mobilité, on se dit que ça devrait être bien plus.
Mais bien sûr, et je suis ravi que vous puissiez le constater, comme beaucoup d'investisseurs d'ailleurs, s'ils parient sur Dassault Systèmes, c'est bien pour ça. Mais la réalité, c'est la valeur qu'on apporte aux entreprises et aux industriels. Et surtout, eux, ça leur prend du temps de se transformer. Tout le monde parle de numérique. Vous savez très bien que dans toute la société, c'est un temps de transformation sociologique, de formation des forces vives, et ce sont des temps incompressibles. Et c'est ça qui fait que Dassault Systèmes est une société long terme, mais tous les 5 ans, je vous fais remarquer que tous les 5 ans, notre bénéfice net par action double.
Ouais.
Donc c'est un bon modèle pour le long terme.
Le cloud, vous avez lancé justement un cloud français. Où est-ce que vous en êtes? Parce que il y a des initiatives dans tous les sens. On se demande un peu est-ce que ça a un sens d'avoir un cloud français ou pas. Où est-ce que vous en êtes?
Alors, notre vue des clouds est la suivante. On pense qu'il existe 3 types de cloud. Collaboration internationale, vous passez les frontières.
Ouais.
Un cloud qui est restreint à un espace dans lequel les lois fiscales et légales sont cohérentes, espace européen. Et un cadre beaucoup plus restreint de souveraineté qui est la frontière d'un pays dans le cadre de programmes extrêmement sensibles. Voilà, je ne vous ai pas parlé de technique informatique, je vous parle de lois et d'obligations.
Et donc,
ces 3 Dassault Systèmes, avec sa marque Outscale, a l'intention de servir ces 3 types de cloud. L'un d'entre eux, frontière internationale, en utilisant des opérateurs comme Amazon, des opérateurs comme Google et d'autres, les clouds espace européen avec une souveraineté européenne et les clouds éminemment sensibles, santé, programme militaire, défense et autres, avec des clouds souverains à l'échelle d'un pays.
Oui.
Nous sommes acteurs dans les 3, mais vous voyez bien qu'on fait appel à des services qui sont de nature différente et ça, c'est unique pour Dassault Systèmes. Pourquoi? Parce que les services finaux qu'on offre sont tellement critiques quand vous faites la santé, vous êtes sur des profils de données concernant une population, elles sont souveraines, comme les données de sécurité d'un hôpital, comme les données de sécurité de transport et bien d'autres systèmes critiques d'énergie. Et vous voyez bien que là, que notre offre NumSpot avec La Poste, donc société faisant partie de l'État, est un nouveau partenariat public-privé innovant,
oui, mais vous,
qui va nous permettre d'offrir des solutions.
Mais vous en êtes où, justement? Il a été lancé.
Il a été lancé.
Et donc, c'est quoi les résultats? Vous avez combien de clients? Vous avez...
Les solutions sont là. Outscale existe déjà. On fait un chiffre d'affaires significatif.
Combien?
Avec une marge, c'est pas communiqué, avec une marge qui est une marge aussi importante que sur le logiciel, alors que tout le monde m'expliquait qu'on ferait des marges inférieures. Eh bien, figurez-vous qu'on fait des marges égales aux marges de Dassault Systèmes.
D'accord, ok. Donc, vous ne voulez pas nous donner quelques chiffres quand même?
Non, c'est pas communiqué, donc on ne va pas le faire ici.
Ah, c'est vous qui êtes le boss, donc vous pouvez les communiquer si vous avez envie de les communiquer.
Oui, mais ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant.
Pourquoi? Parce que c'est au tout début.
Non, ça, je ne sais pas ce que vous pensez, mais enfin, en tous les cas, c'est un chiffre significatif pour Dassault Systèmes.
D'accord, ok, ça. Non, mais ça, c'est un point
significatif pour Dassault Systèmes.
Aussi, lorsqu'on regarde la réduction de votre dette, on va quand même rappeler qu'il y a 3 ans, vous avez 4 ans, ou 3 ans, vous avez racheté Meditata, c'était 5,8 milliards, quand même.
Oui, ça faisait... C'est près de 6 milliards.
Ouais. Donc, près de 6 milliards. Donc là, 2 dollars, oui. Donc là, maintenant, vous avez réduit votre dette.
Premier trimestre, ça sera remboursé.
tout sera remboursé au premier trimestre.
Totalement. Moins de 3 ans, je vous rappelle que la transaction a eu lieu en novembre 2019.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes prêt pour de nouvelles acquisitions ou pas?
Bien sûr, mais on a continué. On a fait 5 acquisitions l'an dernier.
Oui, les acquisitions et acquisitions et acquisitions.
Oui, mais enfin, c'est quand même des acquisitions. Vous savez, j'entends beaucoup parler de start-up qui valent 10 millions, 50 millions, 100 millions, même 1 milliard. On fait des acquisitions à 400 millions, on les communique à peine. Dassault Systèmes, c'est devenu une machine qui a un cash flow qui permet de faire des croissances organiques et des croissances externes de manière continue, malgré le fait d'avoir fait une acquisition à 6 milliards.
Et là, vous pourriez refaire une acquisition majeure, peut-être pas ça, c'était la plus grosse de votre histoire, évidemment, mais vous pourriez refaire une acquisition très significative.
Ça dépend ce que vous entendez par significatif.
Non, mais je ne vais pas sur le mot, vous voyez ce que je veux dire.
Oui, mais de plusieurs milliards, mais bien sûr.
Vous êtes prêt?
Si les opportunités se présentent dans des conditions qui correspondent à notre stratégie, car pour nous, l'objectif des acquisitions, ce n'est pas de créer un chiffre d'affaires nouveau. Pas du tout. C'est de réaliser des solutions innovantes et uniques au monde pour pouvoir continuer de garder une position de leader et de transformer le monde vers un monde plus durable. Parce que le raison d'être de Dassault Systèmes, je vous rappelle, c'est harmoniser produits, nature et vie. C'est pas rien. On l'a démontré pour l'aéronautique, on le démontre pour l'automobile, on le démontre pour la santé et on va le démontrer pour les systèmes d'énergie.
Et s'il y a une acquisition, je comptais vos doigts, il vous reste quelques doigts de disponibles.
Oui.
Est-ce que ce sont des nouveaux secteurs ou au contraire, c'est plutôt pour renforcer les secteurs où vous êtes en ce moment?
Bien entendu, parce que si vous regardez le positionnement de Dassault Systèmes aujourd'hui, qui est quand même aujourd'hui bien remarqué, il y a 3 secteurs de l'économie. Je ne parle pas d'industrie, 3 secteurs de l'économie. Le monde qui fabrique des produits physiques, quel qu'il soit, de votre téléphone, le micro, ces tables, produits physiques faits par l'humanité, les infrastructures, villes, bâtiments et la santé. Ces 3 grands secteurs de l'économie représentent 70% de l'économie mondiale. On est un acteur qui a, vous parliez tout à l'heure, des limites. Les limites de Dassault Systèmes, c'est son marché potentiel. Il est de plusieurs centaines de milliards.
Oui. Donc, moi, si j'ai bien compris, ce n'est pas forcément un nouveau secteur.
Ce n'est pas forcément un
d'accord,
nouveau secteur.
D'accord, ok. Non, c'est un problème. Tiens, 2 questions rapides, on pourrait y rester des heures. Mais d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ChatGPT? C'est une révolution? C'est un gadget? C'est quoi?
Ça illustre bien ce que peut apporter
L'intelligence artificielle qui fait toutes les rédactions et qui est à votre place.
Ça l'illustre bien au même titre que ce que vous aviez vu dans la reconnaissance vocale quand vous parlez et qu'il y a le texte écrit. Donc ça fait partie, ça illustre bien cela. Écoutez, nous, la manière dont on illustre avec nos moteurs d'IA, c'est quand on vous fait une reconnaissance automatique de qualité d'une thérapeutique sur un bras théorique de patient qui n'existe pas et que la FDA dit ce test est meilleur que sur des patients réels.
D'accord.
C'est aussi les moteurs d'IA.
Donc, qui permettent est-ce que de c'est une révolution?
C'est un mouvement majeur, c'est une révolution, je me méfie un peu de cela. C'est une technique nouvelle qui permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Mais tout ça dépend d'une chose, c'est la qualité de l'usage pour améliorer la qualité de vie des humains, que ce soit en santé, en infrastructure, en énergie. Donc nous, on a une utilisation à Dassault Systèmes extrêmement avancée de l'IA. On en a peu parlé parce que ça fait partie des secrets industriels, mais la plupart de nos logiciels utilisent des technologies avancées d'IA, probablement même plus avancées que ce qu'il y a dans ChatGPT, qu'on a vu travailler sur des textes. Ce n'est pas notre métier, le texte, puisque c'est la modélisation et la représentation du monde.
Vous les développez où? Dans votre siège à Vélizy-Koublay, ou c'est pour ça que vous avez eu du mal à arriver ici? Ou aux États-Unis?
Dans le monde entier, on a des gros laboratoires aux États-Unis, en Inde, on a évidemment des laboratoires en Europe qui sont très répartis en Europe. On a le siège, bien sûr, à côté de Paris, comme vous le mentionniez, mais on a aussi Berlin, on a aussi Munich. Dassault Systèmes est devenu une société assez globale. On a quand même 160 sites et 120 laboratoires de recherche et développement dans le monde.
Une question comme ça, Bernard Charles. Vous qui étiez un salarié au départ, vous étiez un salarié, c'est vous qui avez inventé le logiciel CATIA qui a permis le développement de l'infosystème. Mais au départ, vous étiez un salarié. Est-ce que maintenant, vous êtes un homme très riche? Parce qu'évidemment, avec tout ce que vous avez fait gagner, tout ce qui a d'infosystème a tellement progressé que, évidemment, vous êtes un homme riche. Est-ce que vous êtes pour le dividende salarié?
Le dividende salarié est une bonne, mauvaise idée. Il y a déjà des dispositifs qui existe, qui s'appelle l'intéressement et la participation. Ces dispositifs fonctionnent bien pour les entreprises qui l'adoptent. Imaginez que pour nous, ça correspond certaines années, je ne peux pas révéler cette année, mais ça va être au moins de cet ordre-là, plus de 25% supplémentaires, 25% supplémentaires, un quart supplémentaire d'années avec l'intéressement et la participation. J'implore le gouvernement de ne pas inventer autre chose. Parce qu'on a déjà les outils qui vont bien. Il est préférable de conseiller les entreprises sur l'utilisation appropriée de cet outil, mais de ne pas nous inventer une nouvelle usine à gaz.
D'accord. La semaine de 4 jours, vous êtes favorable chez vous, ça se passe chez d'autres systèmes? Ou c'est un débat franco-français? Non.
La semaine de 4 jours, bon, d'abord, je pense que là, il y a un mouvement sociétal mondial. Non, le problème, c'est pour nous le télétravail. Notre politique est de ramener tout le monde sur les sites le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles. D'avoir le plaisir de se retrouver et d'avoir le plaisir de reconstituer des relations sociales dans qui ont été cassées durant la période du Covid. Il faut remettre un peu les pieds sur terre. Les gens au travail apprécient leurs conditions d'environnement lorsqu'ils ont des amis qui peuvent échanger et se soutenir. Et c'est pas en travaillant seul qu'on construit ce type de performance.
Merci. Merci Bernard Charles d'avoir été avec nous. Belle performance. Hein. Ça aurait été dommage de ne pas être là à cause d'embouteillage avec, je rappelle quand même, la plus forte hausse du CAC 40. Merci beaucoup Bernard Charles, le PDG d'Assaut au Système. Évidemment, vous pouvez retrouver cette interview sur les podcasts de BFM Business ou en replay. Et tout de suite, ça tombe bien, Tech & Co avec Frédéric Simotel. Bonne soirée.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.